Sous la fenêtre d'Odrade, la foule s'agitait d'une manière nouvelle. Elle pencha la tête, curieuse, pour voir ce qu'il se passait. 5 hommes entièrement nus avaient formé un cercle en se tenant par les bras. Leurs tuniques et leurs distilles étaient entassées dans un coin, gardées par une petite fille à la peau noire vêtue d'une longue robe brune en fibres d'épice. Elle avait les cheveux noués par un morceau de tissu rouge. Des saltimbanques. Odrade avait entendu parler de ces gens, mais c'était la première fois qu'elle avait l'occasion d'en voir depuis son arrivée ici. Parmi la foule qui les regardait, il y avait 3 prêtres du service d'ordre, de grands gaillards coiffés d'un casque jaune à cimier. Ils portaient des tuniques courtes qui laissaient leurs jambes entièrement libres de leurs mouvements. Chacun avait à la main un bâton bardé de métal. Tandis que les saltimbanques dansaient leur ronde, la foule s'excitait de plus en plus. Odrade connaissait la suite. Bientôt les gens se mettraient à crier, la mêlée serait générale. Le sang coulerait, les têtes craqueraient. Tout le monde s'affolerait, courant dans tous les sens. À la fin, tout s'apaiserait sans intervention extérieure. Certains s'en iraient en pleurant, d'autres en riant. Et la garde sacerdotale n'interviendrait pas. Depuis des siècles, le Bene Gesserit était fasciné par l'inutile insanité de cette danse et ses conséquences. À présent, Odrade retenait son souffle en l'observant. La lente détérioration du rite intéressait à plus d'un titre la Missionaria Protectiva. Les Rakiens l'appelaient aussi la danse de la diversion. Mais il existait d'autres noms pour la décrire, parmi lesquels le plus significatif était Sienok. Cette danse représentait en effet tout ce qui restait du plus grand rituel pratiqué du temps du tyran, sa cérémonie de partage avec ses truitesses. Odrade reconnaissait et respectait ici l'énergie contenue dans ce phénomène. Aucune révérende mère ne pouvait manquer de s'en apercevoir, mais l'idée d'un tel gaspillage la rendait nerveuse. De telles forces auraient dû être canalisées, concentrées. Ce rite demandait à être utilisé pour quelque chose de constructif, alors qu'il ne servait à présent qu'à vidanger des énergies qui auraient pu, certes, constituer une menace pour les prêtres si elles n'avaient pas trouvé cet exutoire. Une odeur de fruits douceâtres parvint aux narines d'Odrade. Elle huma l'air et se tourna pour regarder les grilles de ventilation proches de la fenêtre. La chaleur de la foule et de la terre exposée longtemps au soleil créait un courant d'air ascendant qui amenait les odeurs jusque dans le système de climatisation ixien. Elle appuya le front contre le plâtre pour mieux voir ce qu'il se passait au-dessous. Ah, les danseurs, ou bien la foule, avaient renversé l'étal d'un marchand. Ils étaient en train de piétiner les fruits. Les danseurs avaient de la pulpe jaune jusqu'aux cuisses. Odrade reconnut le marchand de fruits parmi les spectateurs. Son visage ridé lui était familier car elle passait souvent devant son étal pour entrer dans l'immeuble. Il paraissait indifférent à la perte de ses fruits. Comme le reste de l'assistance, il concentrait son attention sur les danseurs. Les 5 hommes nus tournaient en levant haut le pied sur un rythme déhanché, discontinu, apparemment sans coordination, qui cependant formait à intervalles réguliers des figures répétitives. 3 danseurs, les 2 pieds par terre, et les 2 autres maintenus en l'air par leurs partenaires. Odrade n'eut pas de peine à identifier le motif. Il était apparenté à l'ancienne manière frémène de marcher sur le sable. Cette danse curieuse, fossilisée, avait des racines profondes dans la nécessité vitale d'avancer sur le sable sans signaler sa présence au grand vert. De tous les coins de la place, les gens affluaient maintenant, en sautillant de temps à autre comme des pantins, le cou raide, pour essayer d'apercevoir par-dessus la foule compacte les 5 hommes nus qui dansaient. Odrade vit alors le cortège de Shiana, loin sur la droite, avançant dans la grande avenue qui débouchait sur la place. Des symboles sur une façade annonçaient que cette avenue était la voie de Dieu. Historiquement, c'était par là que Leto II entrait dans la cité quand il quittait les lointaines murailles de son sarir plus au sud. Nombreux étaient encore les détails qui rappelaient ici la splendeur de l'ancienne On, la cité festive du tyran, construite autour du cœur de l'encore plus antique Arakin. On avait effacé beaucoup de marques d'Arakin, mais certaines artères demeuraient. Il y avait des bâtiments trop utiles pour être réformés, et les bâtiments définissent les voies. Le cortège de Shiana s'immobilisa à l'endroit où l'avenue débouchait sur la place. Des gardes au casque jaune partirent en avant, ouvrant un chemin avec leurs bâtons, Ils étaient tous d'une taille supérieure à la moyenne. Posés au sol, leurs bâtons de 2 mètres arrivaient à peine à l'épaule du plus petit d'entre eux. Même au milieu de la foule la plus hétéroclite, on ne pouvait manquer de reconnaître immédiatement un garde sacerdotal. Et l'escorte de Shiana était composée des plus grands d'entre eux. Le cortège se remit en route dans la direction d'Odrad. Les tuniques volaient à chaque enjambée vigoureuse des gardes, révélant le gris luisant des meilleurs distilles. Ils étaient 15 à former un V protecteur qui rasait les étals, fendant la foule par le chemin le plus direct. Un groupe de prêtresses au centre duquel était Shiana marchait en désordre derrière les gardes. Odrad apercevait par instant la tête fièrement rejetée en arrière de Shiana, avec ses cheveux diaprés de soleil. Mais ceux qui retenaient surtout son attention étaient les gardes au casque jaune. Ils avançaient avec une arrogance à laquelle ils étaient conditionnés dès l'enfance. Ils se sentaient supérieurs à la foule qui les entourait. Et la foule réagissait naturellement en s'écartant pour laisser passer le cortège. Tout cela se faisait de manière si naturelle qu'Odrad avait l'impression, en voyant progresser le groupe, d'assister à une autre danse rituelle, dont les motifs n'avaient pas changé depuis des millénaires. Comme bien souvent dans ces moments-là, Odrad se considérait comme une archéologue, non pas quelqu'un qui remuait les vestiges poussiéreux des temps révolus, mais quelqu'un qui se concentrait sur ce qui retenait fréquemment l'attention des sœurs, à savoir la manière dont les gens portaient en eux leur passé. Et dans ce cas précis, la marque du tyran lui-même était apparente. L'arrivée de Shiana se faisait sous le signe de l'empereur Dieu en personne. Sous les fenêtres d'Odrad, les saints comme nus continuaient de danser. Il y avait cependant dans la foule une onde de nervosité nouvelle qu'Odrad percevait nettement. Sans qu'aucune tête se tourne véritablement vers la phalange sacerdotale qui arrivait au pas de charge, l'assistance savait. Les bêtes savent toujours quand le berger arrive. L'impatience de la foule se traduisait à présent par une accélération des mouvements. On ne les priverait pas de leur chaos. Une motte de terre lancée de loin s'écrasa sur le sol à proximité des danseurs. Ils ne changèrent pas un seul pas dans leur enchaînement de figures, mais le rythme s'accéléra. La durée des séquences entre chaque répétition attestait qu'ils avaient une remarquable mémoire. Une autre motte venue de la foule heurta l'épaule d'un saltimbanque. La danse des cinq hommes n'en fut pas modifiée. Des cris s'élevèrent, puis des imprécations reprises en chœur. Des battements de mains contrecarrèrent le rythme de la danse, mais les figures demeurèrent inchangées. Les murmures de la foule devinrent un âpre grondement. Les cris résonnèrent sur les murs de la place. Tout le monde essayait de briser le rythme de la danse. Odrad ressentait profondément l'importance de cette scène. Le cortège de Shiana se trouvait maintenant à peu près au centre de la place et poursuivait son chemin vers le gros de la foule, qui se trouvait à une cinquantaine de mètres de la pointe du V. Les gardes sacerdotaux avançaient toujours au même pas, indifférents à ceux qui couraient de tous les côtés pour les laisser passer. Sous les casques jaunes, leurs yeux étaient fixés droit devant eux, par-delà les gens, comme s'ils ne voyaient ni la foule, ni les saltimbanques, ni aucune autre barrière qui pût les ralentir. La foule devint brusquement silencieuse, comme si une main invisible lui avait fait signe de se taire. Les 5 saltimbanques continuaient à danser. Le silence au-dessous d'Odrad était tellement chargé d'électricité qu'elle sentait se dresser les poils de sa nuque. Les 3 gardes sacerdotaux qui regardaient les danseurs au milieu de la foule se tournèrent comme un seul homme et se dirigèrent vers l'immeuble d'Odrad, quittant son champ de vision. Une femme hurla une imprécation. Les danseurs ne parurent pas l'entendre. La foule resserra le cercle autour des danseurs. La petite fille qui gardait leurs vêtements n'était plus en vue nulle part. La phalange de Shiana chargeait, les prêtresses et leurs protégés dans son sillage. Sur la droite d'Odrad, il y eut une soudaine éruption de violence. Des bagarres commencèrent. D'autres projectiles volèrent vers les saltimbanques. Le murmure de la foule devint une litanie scandée de plus en plus vite. En même temps, ceux qui formaient l'extérieur du cercle s'écartaient pour laisser passer les gardes. Sans quitter des yeux les danseurs, sans interrompre leur contribution au chaos grandissant, il faisait de la place au cortège. Captivée, Odrad regardait le spectacle qui se déroulait sous elle. Tout se passait en même temps. La mêlée, les bagarres, les imprécations, la litanie qui n'arrêtait plus, l'implacable avance des gardes et du cortège. Dans le cocon protecteur des prêtresses, Shiana tournait sa petite tête de tous les côtés pour essayer de voir ce qui se passait. Parmi la foule, les bâtons et les poings volaient, mais à aucun moment un garde ni aucun autre membre du cortège de Shiana ne fut menacé. Les saltimbanques continuaient de sautiller à l'intérieur d'un cercle qui ne cessait de se refermer sur eux. Le groupe était peu à peu repoussé vers l'immeuble d'Odrad, ce qui la forçait à coller son visage aux places pour y voir quelque chose. La foule s'écartait toujours devant l'étrave des gardes. Les prêtresses ne regardaient ni à gauche ni à droite. Les prêtres au casque jaune regardaient droit devant eux. Le mot « mépris » était trop faible pour décrire leur attitude, se disait Odrad. Il n'était pas juste non plus de dire que la foule ignorait le cortège. Chaque groupe avait connaissance de l'existence de l'autre, mais ils vivaient dans des mondes bien séparés, dont ils observaient strictement les règles chacun de son côté. Seule Shiana paraissait ignorer ce protocole secret. Elle se hissait sans cesse sur la pointe des pieds pour essayer de voir au-delà du rempart de corps qui la protégeait. Juste devant l'immeuble d'Odrad, la foule se porta brusquement en avant. Les saltimbanques furent emportés par le mouvement comme un navire saisi par une lame géante. Odrad entrevit des fragments de peau nue ballottés de main en main au milieu d'un chaos trépidant. Il fallait qu'elle se concentre pour arriver à séparer les bruits qui montaient jusqu'à elle. C'était de la folie furieuse. Aucun des saltimbanques n'avait essayé de résister. Que leur faisait-on? Allait-on les tuer? Était-ce un sacrifice? Aucune des analyses du Bene Gesserit n'effleurait ce genre de réalité. Les casques jaunes, ouvrant la voie à Shiana et à ses prêtresses, s'étaient écartés pour les laisser entrer dans l'immeuble. Puis ils s'étaient déployés en arc devant la porte, le bâton tenu à deux mains, à demi levé, à hauteur de la taille. Le chaos sur la place commençait à s'apaiser. On ne voyait aucun des cinq saltimbanques, mais de nombreux blessés gisaient par terre. Certains se relevaient péniblement, d'autres avaient la tête en sang. Shiana et les prêtresses n'étaient plus dans le champ de vision d'Odrad. Elle se détourna du place, essayant de mettre un peu d'ordre dans ce qu'elle venait de voir. Incroyable. Aucun récit des sœurs, aucune holophoto ne donnait la plus petite idée de ce à quoi elle venait d'assister. En grande partie, il s'agissait d'odeurs, celles de la poussière, de la transpiration, une intense concentration de phéromones humaines. Odrad prit une profonde inspiration. Elle se sentait trembler intérieurement. La foule était redevenue un ensemble d'individus distincts qui déambulaient dans le marché. Et l'envie qui pleurait, certains proféraient des jurons, d'autres riaient. Derrière Odrad, la porte s'ouvrit brusquement. Shiana entra dans un grand éclat de rire. Odrad se retourna et aperçut dans le couloir ses gardes et quelques-unes des prêtresses avant que Shiana referme la porte. Les yeux brun foncés de la petite fille pétillaient d'excitation. Son visage mince, où s'esquissait déjà la douceur de ses futurs traits de femme, était tendu sous l'effet d'une émotion réprimée. L'attention disparut quand elle s'approcha d'Odrad. « Très bien, » pensa la révérende mère. Le premier lien a déjà porté sa leçon.
« Vous avez vu les saltimbanques ?»
demanda Shiana, en faisant un tour sur elle-même et en sautillant à cloche-pied pour venir s'arrêter juste devant Odrad.
« Ils sont formidables, n'est-ce pas ? Je les trouve extraordinaires. Kanya ne voulait même pas me laisser regarder. Elle dit que c'est trop dangereux pour moi de prendre part au Sienok. Mais ça m'est bien égal. Shaitan ne mangerait jamais ces saltimbanques. »
Dans un élan de compréhension soudaine, uniquement comparable à ce qu'elle avait ressenti durant l'agonie de l'épice, Odrad eut la révélation de ce qu'elle venait de voir sur la place du marché. Il avait fallu la présence et les paroles de Shiana pour que tout devienne subitement clair. Un langage. Profondément ancré dans leur conscience collective, ces gens portaient en eux inconsciemment un langage qui leur disait des choses qu'ils ne voulaient pas entendre. Les saltimbanques le parlaient, Shiana le parlait aussi. Il se composait de mouvements, d'intonations et de phéromones, combinaisons subtiles et complexes qui s'étaient créées de la même manière que tous les langages, par nécessité. Odrad se tourna en souriant vers la petite fille joyeuse qui se tenait devant elle. À présent, elle savait comment prendre les clés Laxu au piège. À présent, elle comprenait mieux les plans de Taratza. Il faut que j'accompagne Shiana dans le désert à la première occasion. Nous attendrons seulement l'arrivée de ce maître du Tleilax, ce fameux Vaf. Nous l'emmènerons avec nous.